des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Grainville et Christine Montalbetti. Étrange attelage, a priori, car qu'y a-t-il de commun, je vous le demande, entre les puissantes mémoires du héros de Grainville, qui revient sur l'admiration qu'il eut entre 1868 et 1927 à Étretat, pour les peintres de son temps, Monet, Courbet, Boudin, Matisse, Degas, Picasso, tout jeunot, et, de l'autre côté, la chronique rêveuse, quoique minutée, d'un fait divers impliquant un papy braqueur dans un casino à Trouville en 2011. Je vous le demande et vous ne me répondez pas, alors je vous le dis, ce qu'il y a de commun entre la fresque énorme, flamboyante de Grainville et l'enquête ciselée de Christine Montalbetti, c'est la Normandie, sa terre, sa mer, son atmosphère pluvieuse et adorée, tonique et violente, son crachin aussi qui peut-être explique tout, les sautes d'humeur, les enthousiasmes. Oui, la Normandie sera au cœur de cette émission aujourd'hui, et c'est pas mal. Bonjour Patrick Grainville.
Bonjour.
Alors, Étretat, quelle belle page sur Étretat, c'est magnifique.
Étretat, si vous voulez, moi c'est... Moi je suis né dans l'estuaire, qui est plus étroit, qui est plus grincheux, qui a des joliesses. Dès qu'on va vers Trouville, c'est beau. Alors Étretat, pour moi, c'était l'exotisme. C'est-à-dire que c'était la falaise... Ça n'avait plus rien à voir avec le bocage, c'était un grand théâtre, il y avait des portes magnifiques, il y avait des arches, et donc c'était l'élargissement, c'était quelque chose de... C'était l'aventure et l'épopée. Alors que moi, je moisissais un petit peu comme Madame Bovary, ou comme le personnage de Christine, je moisissais un peu dans le bocage. Certains jours, plus vieux, pas
toujours. Moisir dans le bocage aurait pu être un beau titre. Falaise des fous, et pas du tout les fous de la falaise.
Alors, falaise des fous... Parce que ce sont les fous de création, ce sont les fous de peinture, les fous de littérature. Parce qu'après tout, vous savez, la falaise, c'est la falaise de Maupassant. C'est la falaise d'une ville, Maupassant. C'est aussi un peu la région flaubertvien. Et puis Courbet et Monet sont venus à Étretat à 6 mois d'intervalle. Monet vient l'hiver et Courbet, magnifique, vient l'été se baigner tout nu, ce qui fera d'ailleurs à Trouville très bien. Hein.
Alors, Falaise des fous au seuil, ou les mémoires d'un Normand qui, au soir de sa vie, revient sur sa vie de témoin, d'amant, d'admirateur éperdu pour les peintres de son temps. Vous les avez cités, Monet, Courbet, Boudin, Manet, Degas, Matisse. Les écrivains aussi, Hugo, Maupassant, vous le citiez, Sandrard aussi finalement, Barbus Proust, qui commencent à apparaître, qui naissent. Tous ces gens sont saisis par le regard de votre narrateur, c'est Charles Guillemet. Hein, c'est ça son,
oui.
Son nom,
oui, oui.
Comme des guillemets, depuis presque le balcon sur la Manche de son chalet d'Étretat, dont les galets ont servi à ses maîtres pour planter le chevalet de leur toile qui allait vaciller, trembler sous leur vision picturale. Étretat, Le Havre, toute cette côte d'albâtre, vous la sublimez comme une soupe originelle, l'expression est de Claude Arnaud, d'où cette créativité a jailli. Alors vous êtes Patrick Grainville, prix Goncourt 76 pour Les Flamboyants. De quoi aviez-vous envie lorsque vous vous êtes engagé dans cette voie audacieuse, hasardeuse, faire le roman de cette colonie artistique tellement féconde, tout en évoquant la guerre contre la Prusse, l'affaire Dreyfus, les attentats anarchistes, New York, la Grande Guerre, la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, bref, vous lancez dans une résurrection de cet ensemble de flux artistiques, marchands, sexuels aussi de l'époque, depuis cette falaise des fous.
Au départ, je n'avais pas eu l'idée d'aller si loin. Ça m'aurait effrayé. Au départ, c'était vraiment Courbet et Monet à Étretat, avec leurs différences bien tranchées, c'est-à-dire Courbet, le grand peintre classique quand même, un réaliste mais très imaginatif et qui a une force formidable et qui arrive à la maturité, plus que la maturité quand il est à Étretat, et Monet qui est un jeune peintre, un peu connu, mais il n'a pas 30 ans, et qui commence sa carrière. Oh, il se trouve tous les deux là, Courbet va aller ensuite... Il va y avoir la guerre, la commune, il va disparaître et Monet va commencer son ascension infinie. Au départ, moi, je suis plus attiré par Courbet parce qu'il correspond plus peut-être à mon tempérament extérieur apparent. Et puis, il a cette espèce de virulence, d'exubérance. Monet, lui, est intérieur, anxieux, taiseux. Mais Monet va peut-être gagner la partie. par sa longévité et surtout Monet révolutionnaire en peinture, ce qui n'est pas toujours courbé.
Donc d'abord, c'était ces deux-là.
Ces deux-là, oui.
Et finalement, vous avez brossé tout le siècle presque.
Oui, parce que ensuite...
C'est deux siècles presque, d'ailleurs, oui. Cette charnière.
Mais oui, parce que j'étais entraîné. Petit à petit, je me suis trouvé à Rouen, où Monet peint la cathédrale. Et pourquoi pas Giverny ? Puis très vite, j'ai eu cette idée. C'est vrai que je me suis aperçu que c'était le siècle de mes deux grands-pères qui se sont trouvés dans les tranchées en 14-18. Il y avait cette chose extraordinaire, c'est que lorsque mes deux grands-pères étaient malmenés, et j'en prends un mot, une litote, malmenés dans les tranchées, pendant ce temps-là, Monet peignait les nymphéas, peignait son chef-d'œuvre infini. Et donc j'avais rendez-vous avec ces deux grands-pères, avec les tranchées, et je ne le savais pas au départ, absolument pas. Je n'aurais jamais osé écrire un livre sur mes grands-pères pendant la Grande Guerre, parce que ça me semblait interdit. Et c'est par ce biais de ces peintres, ces géants de la peinture, que petit à petit, eh bien, je me suis trouvé confronté à cette histoire-là.
Et là, ouvrez les guillemets, hein, le nom de votre personnage. Christine Montalbetti, avec vous, on quitte le 19e siècle et la belle époque pour atteindre, et le début du 20e, puisqu'il est question de ça aussi dans le livre de Grinville, pour atteindre le 25 août 2011, étonnante journée où un véritable braquage a eu lieu au casino de Trouville en plein après-midi. Trouville Casino, c'est le titre de votre roman paru chez Paul en cette rentrée. Le braqueur est seul, il a 75 ans, c'est une histoire vraie, je le disais, c'est même une histoire tragique, et vous vous attachez à la retracer, précisément à faire le partage entre les faits auxquels vous avez eu accès, les différentes versions qui circulent, les hypothèses et la part d'invention où peuvent s'imaginer les journées ordinaires qui ont mené à ce geste extraordinaire, le geste de ce papy braqueur, comme vous l'appelez, depuis sa maison de l'Orne, depuis aussi les paysages qui l'entourent, depuis cette atmosphère et ce fameux crachin normand dont vous parlez tellement précisément, comme si c'était lui le responsable.
En tout cas, il y a une mélancolie, c'est vrai, de la pluie, de ces paysages humides. Et oui, j'imagine qu'il y a une sorte de contagion comme ça du paysage sur le personnage.
Alors, c'est pas étonnant de la part de quelqu'un, parce que c'est votre cas. Il parlait de Villers, Patrick Grinville, il est né là, vous êtes né au Havre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de déterminisme finalement ?
Je suis née au Havre, mais je n'y ai pas vécu. Et du coup, c'est un peu une origine fantasmatique pour moi, cette histoire-là d'être née dans un port, de penser au départ, au bateau, à toute l'activité portuaire aussi, et au voyage. Et de même que je porte un nom italien, mais c'était mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu non plus. Et donc, j'ai un peu deux origines fantasmatiques, comme ça, l'Italie et un port. J'aime assez cette idée de... que ses origines soient comme ça troubles, enfin pas... voilà, que ce soit des... Et puis, on voit aussi, il faut dire, on voit le Havre depuis Trouville, et je suis très attachée...
Votre Grinville opine.
Et depuis Villerville, parce que je suis né à Villers, mais j'ai vécu à Villerville.
Vous êtes tourné à Singe en hiver.
Oui, et à Villerville, alors là, on a le Havre vraiment en face.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis attachée à Trouville, c'est que j'y vois ma ville natale, ce qui est rassurant, qui est comme une preuve de mon existence, mais en même temps de loin, ce qui est bien aussi, parce que je pense que c'est toujours troublant de revenir là où on est né.
Alors Christine Montalbetti, vous étiez venue ici même nous parler d'un précédent livre, La vie est faite de ces toutes petites choses, qui était l'histoire d'un voyage à bord de la navette Atlantis en direction de la Station Spatiale Internationale. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir à ce point mettre les voiles, ou plutôt les réacteurs, pour une destination beaucoup moins spatiale, quoique, qu'est Trouville ?
Alors en fait, dans la chronologie de l'écriture, j'avais quand même commencé à écrire sur ce braquage avant de me lancer dans le roman spatial. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup écrit des romans qui se passaient aux États-Unis, jusqu'à Plus rien que les vagues et le vent qui se passe sur la côte ouest. Et je ne pensais plus écrire sur l'Amérique, mais j'avais été tellement troublée par ces paysages volcaniques, comme ça, océaniques, très puissants. Et puis j'avais écrit deux romans qui se passaient au Japon, et c'est vrai qu'avec le roman spatial, j'allais comme ça peut-être le plus loin. Enfin voilà, après avoir été le plus loin à l'ouest, je m'élevais.
Donc c'est un retour
dans le ciel. Et voilà, c'est une sorte de. C'est vrai que c'est une sorte de retour à des paysages plus connus, peut-être au le premier roman se passait dans un genre de Normandie imaginaire au bord de la mer. L'Origine de l'homme, c'était en Picardie, c'était la baie de Somme. Et là, c'est vrai que c'est une sorte de retour comme ça.
Et Trouville est une sorte de station spatiale, finalement, métaphoriquement, comme une planète
en tout cas,
inconnue pour
en
certains.
En tout cas, pour moi, c'est un lieu de... J'emploie le terme de manière très matérialiste, mais quand même de ressourcement matérialiste. Ouais. C'est-à-dire, c'est un endroit où c'est vrai que j'aime aller écrire depuis toujours, depuis que je suis jeune fille. J'aime faire des petites échappées à Trouville.
Merci à tous les deux de participer à cette émission, Patrick Grainville et Christine Montalbetti, donc consacrée au crachin normand, mais pas seulement, à la figure de l'artiste aussi, à l'atmosphère. Et d'ailleurs, en parlant d'atmosphère, diriez-vous que la création procède aussi d'une forme d'atmosphère, de ce qu'on pourrait appeler la couleur de l'air, à commencer par vous. Vous êtes des créateurs en tant qu'écrivain.
Oui, moi j'aime beaucoup le peintre Boudin, qui a très très bien rendu les ciels, et qu'elle rend bien, Christine aussi, les ciels normands, qui sont assez contradictoires. Alors chez Boudin, ça donne des lambeaux comme ça, un peu contrariés, contradictoires, avec des lambeaux de bleu, de gris, des tourbillons. C'est très très riche. Et donc, ça imprègne. Voilà, mon enfance a été imprégnée par une sorte de... pas le crachin, mais la pluie, une petite pluie, des petites pluies. J'ai une copine qui écrit un roman Petite pluie.
C'est joli.
Et c'est capital, ça, cette pluie normande. Il y a une certaine mélancolie. C'est la mélancolie de Madame Bovary, hein. C'est la mélancolie de Marguerite Duras à Trouville aussi. Donc, c'est vrai. Mais en même temps, il y a cette ouverture. Il y a l'espace, il y a le Havre, les paquebots qui partaient. Moi, au lycée de Deauville, dans la salle de classe, on voyait le France arriver. Je ne vais pas vous entendre la chanson, évidemment.
Faites ce que vous voulez. Chantez-vous libre.
On ne ferait pas des choses pareilles. Et alors, il y avait quand même cet appel du large. Mais l'esprit des lieux, oui, tout à fait. Moi, j'aimais fuir la Normandie pour justement fuir un peu cette mélancolie. Il y a dans le roman de Christine, hein, au casino, il y a une fresque qu'elle va voir et que son personnage a peut-être vu. C'est une fresque sur le Mississippi. Il y a une ouverture. Et j'ai eu besoin de ça, moi, d'écrire sur l'Afrique et tout, de faire un peu comme elle, le Japon, pour partir, quitter un peu cette Normandie bovarique à laquelle je reviens aujourd'hui plus fort et que j'aime et que je retrouve. Mais j'ai eu besoin de partir, quitter les crachins.
Et vous, Christine, parce que c'est vrai, Patrick le rappelait, Trouville, c'est aussi le fantôme de Duras qui est là. Est-ce que vous pensez que l'écrivain, alors bien sûr, un écrivain produit des atmosphères par son art, mais est-ce que l'écrivain n'est pas aussi le produit d'une atmosphère?
Oui, c'est sûr, mais la question de la texture de l'air, parce que là, Patrick Grainville a décrit aussi des paysages, des images, tout ce qu'il y a de, comme ça, de visuel, mais aussi la texture de l'air, le sentiment d'être au monde aussi, voilà. Non. Je sais que j'aime bien écrire la fenêtre entrouverte, même l'hiver. J'aime bien qu'il y ait un petit filet d'air comme ça qui me relie au monde extérieur.
Et dans les écrivains que vous aimez, justement, vous sentez parfois, chez certains, qu'ils sont le produit d'une atmosphère, d'une Provence, d'une Asie lointaine, d'une Amérique électrique.
Ils sont à la fois le produit et puis le producteur aussi.
Oui,
c'est-à-dire,
beaucoup,
voilà,
ouais,
cette manière de réinventer. Oui. Par exemple, j'ai envie de dire Tanguy Viel. Le rapport au paysage dans l'écriture de Tanguy Viel est très important. Évidemment, Paris-Brest, mais pas seulement, le dernier aussi. La manière dont cette puissance de rapport au paysage vient énerver la phrase elle-même.
Patrick Grainville.
Le cas le plus frappant à mes yeux, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est Giono. Et c'est vrai que Giono, à la fois, il est imprégné par la Provence, mais il la crée complètement. Il crée sa Provence, il crée ses couleurs, il crée son univers sauvage, ses westerns dans les montagnettes, dans la garrigue, là, le champ du monde. Il est créateur de son paysage. Alors Flaubert, évidemment, c'est le meilleur exemple, j'aurais dû le trouver tout de suite. Emma Bovary, c'est moi, il est totalement abreuvé, lui, des pluies et tout ça, du bocage. Mais en même temps, dans sa phrase magnifique, il le transforme. Moi, la Normandie, j'ai commencé à me réconcilier avec elle à 15, 16 ans, 17 ans, quand je livre la Bovary, parce que c'est la Normandie, mais elle est reflétée dans les moirures, j'emploie un mot maniéré exprès, de Flaubert.
Bah, d'ailleurs, des moirures, quand il parle de Carthage, des faubourgs de Carthage, il nous crée là une Carthage
là,
d'autres moirures.
Oui, il a adoré ça. Lui, pareil, hein, il part de la Normandie. Et puis, il a besoin de se sauver, d'imaginer des boulimies épiques, là, des grands délires. Il voulait faire un roman qui ait la couleur du jaune, hein, de l'or, de la flamboyance.
Il y a un très bon dictionnaire Flaubert, d'ailleurs, qui est sorti en format poche, chez Honoré Champion, où justement, on trouve ça chez Flaubert, qui dit que, évidemment, ça change quand même quelqu'un quand on a eu au fond de l'âme ce qu'il appelait la brume du Nord et qu'on a respiré ça dès sa naissance, eh bien voilà, ça forme un homme, ça forme un écrivain. Vous sentez ça, Christine Ontalbetti, la brume du Nord que toute petite vous avez respirée sur le déterminisme du paysage.
Absolument, la brume du Nord et l'idée du soleil d'Italie.
Ah, c'est très bien.
Oui, les deux sont indispensables. Il faut le moment où chez Monet, c'est le moment où le soleil va percer la brume. Il adore le brouillard. Il se plaint quand il n'y a pas de brouillard à Londres, alors qu'il y a du fog, hein, il s'en plaint. Mais c'est le moment toujours où le soleil, la lumière, il y a cette espèce de combat ou de fusion, chez lui c'est plutôt un fusionnel, entre la brume et la lumière. Ça c'est très important chez lui.
Alors j'ai une citation à vous soumettre. « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. De tels lieux n'existent pas et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié, l'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. » Il faut que j'en fasse la conquête. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. C'est Georges Perec dans Espèce d'espace. Et j'ai pensé à ces phrases en vous lisant. Est-ce que vous pensez que, de même qu'on enclenche la mémoire par le langage qu'on convoque, est-ce que la littérature n'est pas l'un des meilleurs médiums pour faire cette conquête, comme le dit Perec, de ces paysages parfois infixables?
Si vous voulez voir, moi je ne dirais pas ça du paysage normand, parce que j'ai vraiment raciné en moi une sorte d'icône, Cricboeuf, Peine de Pie, des petits patelins entre Trouville et Honfleur, avec des rivières à truites. J'y ai passé des heures et des heures, entre les bois, la mer, l'estuaire. Et donc pour moi c'est des images qui sont totalement stables, qui sont fixes, qui sont en moi. Alors c'est vivant. Mais ça ne m'échappe pas, c'est pas évanescent, je suis dedans, c'est mon argile, c'est mes pluies, c'est les chevelures des rivières, c'est tout ça. C'est quelque chose qui m'imprègne complètement.
Christine,
peut-être que le terme de conquête est trop violent par rapport au geste de l'écriture.
Pourtant,
même
vous,
si...
la conquête spatiale.
Je oui, mais je l'abordais du point de vue
trop
justement
violent.
Du rapport matériel aux objets en apesanteur. Écrire, c'est prendre les paysages, mais c'est aussi les fabriquer. Et cette brume dont vous parliez, je trouve que je suis assez attachée à cette idée-là de la brume, en tant qu'il me semble que ça a à voir vraiment avec l'écriture de fiction aussi. C'est-à-dire que dans l'écriture de fiction, il y a quelque chose qui reste opaque et qui peut-être doit rester opaque. Il y a un mystère. C'est pas du tout une écriture qui analyse, qui explique, comme l'écriture de l'essai, ou comme... Cette brume-là, elle me paraît vraiment inhérente.
Fiction égale brume.
Oui, il me semble.
On va continuer.
Sans trop simplifier, mais...
On va continuer à plonger dans ces rapports de la littérature au paysage, à l'atmosphère qui les nimbe et qui provoque peut-être une histoire, une fiction, vous le disiez, Christine Montalbetti. Avec vous, donc, et Patrick Grainville. Et cette falaise des fous, on en parle, mais d'abord, on écoute, Patrick Grainville, votre choix musical. Vous avez choisi Nostalgie d'Eric Satie, interprété par Aldo Ciccolini.
Thank you. Le temps des écrivains par Christophe Onodibio.
Éric Satie, Nostalgie, interprété par Aldo Ciccolini. C'est le choix de Patrick Grainville qui publie Falaise des fous au Seuil. C'est la mélancolie dont vous nous parliez qui a dicté votre choix, Patrick Grainville.
Éric Satie est enfleuré.
Natif d'Honfleur, je traduis.
C'est à côté, voilà. Honfleuré, voilà. Natif d'Honfleur.
De l'autre côté de l'eau, comme on dit au Havre.
C'est tout à côté de chez moi. Et puis c'est quelqu'un de très singulier, alors de très original. Et puis il y a toute une révolution musicale à cette époque-là, qui est contemporaine de Monet. Et donc j'ai été tenté de choisir Éric Satie.
Vous écrivez en musique vous...
Non. Jamais. Il faut un silence absolu. Ouais. C'est la guerre avec les voisins, c'est des crises, des catastrophes. J'ai besoin d'un silence total, j'ai des boules quies et tout ça, je ne peux pas. Mais une fois que c'est démarré, on peut entendre du bruit. Quand c'était démarré...
Enfin là, je parlais de musique. Hein.
Oui.
Alors, c'est vous qui disiez
musique,
bruit.
Enfin, non, la musique,
un que, bruit agencé, quoi.
La musique, j'ai besoin de l'écouter totalement, donc je ne peux pas faire les deux. C'est un art accompli, donc je ne vais pas faire les deux choses à la fois.
Falaise des fous, vous publiez donc ce roman au Seuil, un vaste fresque qui tente de résoudre une énigme aussi. Pourquoi Étretat ? Pourquoi cette région a-t-elle attiré les pionniers, les créateurs, les fondateurs de l'impressionnisme de Boudin, vous en parliez à Monet. Pourquoi vinrent-ils ici, précisément, saisir l'impression que ces paysages iodés faisaient sur leur âme, et non plus les décrire uniquement comme ils sont, ces paysages? Pourquoi le Havre a-t-il agi comme un aimant? Pourquoi cette falaise fut-elle peut-être celle des fous, mais en tout cas celle des créateurs, à moins que créateur égale fou, comme on disait tout à l'heure, brume égale
fiction? Ils étaient désignés comme des fous, toujours par la critique de l'époque, hein, les présente comme des démons. Après la première exposition, on parle de folie, ils viennent de Bicêtre, ils sont dingues. À la sortie de l'exposition, les gens qui voient l'exposition mordent les passants.
Alors c'est quelle exposition? La première?
C'est l'exposition de celle-là où c'est très violent, c'est la deuxième en 76, mais en 74 ça commence, mais en 76 c'est très violent.
Donc on se mord en sortant?
On se mord en sortant, on est dans le délire parce que les chairs deviennent, sont violettes, c'est des couleurs pas possibles, c'est pas fini, c'est pas léché, c'est pas nacré comme la peinture académique et tout ça. Mais vous savez, ils viennent là parce que d'abord, le train va arriver très vite là, donc c'est pratique. Ils allaient à Dieppe avant. Et puis, c'est le plein air, c'est le grand air. Boudin dit par exemple, moi, alors, c'est très beau chez Boudin parce que toute sa vie, il restera fidèle à Villers, à Villerville. Il dit que c'est les plus beaux lieux du monde. Hein, quand j'ai tout à Villers et à Villerville, pourquoi j'irai ailleurs? Et il dit, j'aime peindre en respirant l'air de la mer, voyez-vous. C'est ces molécules d'air, ces molécules de pluie, de soleil. Oui, c'est très, très physique. Mmh. Ah, bah, écoutez, c'est une peinture totalement physique. Hein. Moi, je la trouve assez métaphysique aussi, mais il faut, au départ, c'est une peinture très sensorielle, puisqu'il s'agit de peindre l'instant, le moment de la lumière. Mais chez Monet, très vite, ça devient une vision, une hallucination, une création. Moi, j'y tiens beaucoup à la création. Et c'est pas simplement des instantanés, mais ils sont venus là, il y avait la mer, il y avait l'air, il y avait le vent, il y avait l'herbe, et ils sont très heureux. Monet dit, il est à Honfleur, et il dit, mais je m'en pète la tête. Et Courbet a trouvé, il dit, mais c'est magnifique, je me baigne, je mange des crevettes, et 400 femmes viennent se faire peindre. Alors 400, il est arrivé, Courbet, parce qu'il est dans la démesure, mais c'est la joie. Ils ont une joie totale d'être là.
En tout cas, pour résoudre cette énigme que vous venez en partie de résoudre devant nous à l'instant, cette énigme de l'aimantation de tous ces créateurs par un lieu assez petit finalement, eh bien vous vous servez d'un narrateur imaginaire, Charles Guimet, qui va raconter sa vie. Déjà quand même le nom parce que...
Mais Guimet, voilà. Il y a un peintre normand important qu'on voit dans le balcon de Manet, c'est Antoine Guimet. Il a fait un tableau La plage de Villerville, c'est un ami de Zola. C'est pas un peintre pompier, c'est pas un peintre académique, c'est un bon peintre. Alors j'ai choisi ce nom d'Antoine Guimet. Et alors ce qui m'a surpris,
parce que moi je pensais tout bêtement
Guimet,
à une sorte de signe, vous voyez,
je sais pas, genre Guimet,
on ouvre, il parle et la parole.
Ah ben, il cite les hommes de son époque.
On est libre.
Exactement,
oui, Christine
Montalbetti.
Oui,
donc c'est ça, c'est juste en référence.
On est tout à fait. À partir d'un nom, Dieu sait qu'on peut cristalliser tout ça. Mais lui, Guimet, c'est vraiment un peintre, Antoine Guimet. Alors moi, le mien, il n'est pas peintre, mais j'ai choisi ce peintre.
Alors, tout ce roman se déploie dans un va-et-vient entre le retour, finalement, introspectif sur sa vie, hein, sa vie que vous inventez, vous êtes documenté aussi, sans doute, avec son lot de drames, de rencontres. L'érotisme est là aussi, avec Mathilde, bourgeoise mariée à un constructeur haussmannien, un disciple d'Haussmann, et Anna mêlée à la peinture. Et puis, encore de l'autre côté, il y a une formidable quand même remémoration historique. L'histoire est là, l'art de la peinture, on en a parlé, la littérature, le progrès technique. Il va même être question des nymphéas, vous en avez parlé, mais de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, la Commune, l'affaire Dreyfus, les expositions universelles, et même, on en parlera, une peinture du New York en train de s'ériger, mais toujours avec ce lien que vous faites entre éblouissement du regard et inspiration de la main de ces artistes. Qu'allez-vous chercher dans cette peinture, Patrick Grainville, que vous nous livrez hein, vraiment sous nos yeux? Pourquoi c'est ce médium-là qui vous plaît encore plus que la littérature? Parce qu'au fond, c'est un livre que vous faites, mais c'est un livre qui est une peinture, qui est sur la peinture. Et c'est la peinture que vous célébrez, plus que Maupassant, Zola, qui sont pourtant là.
Oui, qui sont là. Mais parce que moi, j'adore la peinture. J'ai commencé quand j'étais gamin à être peintre, puis ça a raté. Puis ça a raté volontairement, c'est sans nostalgie. J'ai accepté hein, ce ratage, puisque c'était un ratage d'enfant. Et puis ensuite, je me suis détaché de la peinture. C'était un peu du cabotinage, vous savez. C'est Sartre qui raconte ça dans les mots. C'était un rôle que je jouais, on voulait me faire exposer. Mais j'ai eu ce lien à la peinture. Et je peignais d'ailleurs des bateaux sur la mer. Et le jour où elle a voulu me faire peindre autre chose que des bateaux, eh bien, j'ai cessé de peindre. Fallait me laisser peindre mes bateaux. Mais la peinture, parce que tout ce qui est visuel m'intéresse, me passionne. Et puis, c'est physique, c'est matériel. J'ai des amis peintres, j'aime les ateliers de peinture. Et puis, vous savez, j'ai eu avec Monet une relation compliquée. Au départ, Monet, je n'aimais pas trop. Je disais que c'était une sorte de prurite de la peinture. Je faisais un numéro là-dessus, je provoquais et j'étais jeune et con, voyez-vous, là,
puis, pouvait pas
plus on devient vieux, plus, mais quand on est jeune, déjà, on est déjà assez con. Et alors, il pouvait pas répondre, donc il s'en serait fiché, je lui demandais, j'espère, pour lui. Et alors, je me suis aperçu que c'était très fort et que c'est avec les meules de Monet, les meules de mon pays, les meules que je voyais dans les champs. Je me suis dit, mais quel génie il a eu pour peindre ces meules, les transformer, en faire des choses abstraites, en faire des espèces de châteaux vraiment alchimiques. Il en fait des cases dorées. C'est le Harare de Rimbaud, les meules de Monet. C'est des meules rouges, c'est des meules phosphorescentes. Puis il y a des bandes de couleurs, comme chez Roscoe. Je me suis dit, mais quel génie il a. Parce que les gens, à l'époque, peignaient des meules. Hein. Il y a des meules extraordinaires de Van Gogh, il y a des meules extraordinaires de Gauguin. Elles sont déjà très échevelées, très extraordinaires. Il y a les meules de Millet, mais les meules et les cathédrales de Monet. Et là, je me suis dit quand même, là, il a une vision extraordinaire. Et c'est ça qui m'a scotché. C'est la joie de voir de la peinture, la joie, le plaisir visuel de la peinture.
Et du coup, de trouver les mots, justement.
Dans la matière des mots. Parce que le mot est abstrait. Il nous prive des choses, alors que le peintre nous donne des choses. Le peintre nous donne des corps. Alors, menez non. C'est ça le grand mystère.
Vous voulez dire que vous nous privez de choses? Non, vous nous les rendez, ces choses-là.
Oui,
dans
mais ce qui est étonnant, c'est
matière,
que
matière, le mot, non, Christine Montalbetti?
Ça produit des images intérieures chez le lecteur, donc ça
oui,
restitue.
Mais il y a quand même un deuil dans le mot, au départ. Hein, le mot existe quand la mère est partie. Maman, le premier mot, c'est qu'elle n'est pas là. Quand on est dans son ventre, on ne dit pas maman. Donc le mot est un deuil d'abord. Et à travers ce mot arbitraire, on va retrouver le monde. Mais la peinture, elle le donne. Et donc ça va toujours bouleverser. Et ce qui est étonnant chez Monet, c'est qu'il ne donne pas les corps, hein, il ne donne pas les nus que j'aime assez, moi. Il ne les donne pas. Tous les peintres, tous ses copains peignent des corps, et lui, jamais. Et ça, c'est le grand mystère de Monet. C'est une des questions du livre qui n'est pas résolue. Pourquoi Monet ne peint jamais de nu, alors que ses copains Renoir, même Millet et Angelus, ils peint des nus extraordinaires, tous, Cézanne,
et alors,
sauf Monet.
Il y a des pistes quand même dans le roman.
Il va vers l'abstraction, il va vers le grand paysage, et au-delà du paysage, il va vers l'infini. Et puis il y a une situation familiale compliquée qui l'empêche peut-être de peindre comme Renoir les nus de la tribu. Il a tiré à se méfier, oui.
Mais la femme est un paysage quand on vous lit Patrick Grainville, parce qu'il est question de ça aussi. Vous dites les 400 femmes là dont parlait Courbet. Germaine avait le corps humecté de sueur, imprégné de la bonne odeur du bois qui brûlait, cheveux langues dénouées, bras répandus, doigts avides, bouche agglutinée, salives et sucs, les seins, leur volume gorgé, leurs veines bleues, vertes. La femme est un paysage dans Falaise des Fous.
La femme est un paysage, c'est plus qu'un paysage. Hein, parce qu'un paysage, on
déjà,
le voit, c'est visuel.
Déjà, quand je dis paysage, c'était positif.
C'est une planète. C'est un univers, oui, c'est un univers. On en vient, hein, on vient du ventre de notre mère, on y a été greffé, donc c'est un paysage. C'est plus qu'un paysage, c'est une terre, c'est un sol, c'est
donc
une mer.
Ça aurait dû l'intéresser.
C'est l'infini, c'est tout. C'est très mystérieux, il peint des femmes au départ, mais il va aller vers quelque chose, vers une épuration et vers les nymphéas. Les nymphéas vont l'occuper 30 ans quand même, hein, de 1897 à 1927. Et pendant toute la guerre, les corps vont mourir, hein, les corps, les chairs vont mourir, et lui, il peint des fleurs.
On va vous écouter lire un extrait, justement, Monet qui peint, c'est dans Falaise des Fous, c'est au début, en fait, du livre. On vous écoute, Patrick Grinville.
Monet revenait peindre sur la plage, toujours soucieux, concentré, sous un large chapeau, botté, encore vêtu de ses paletots de velours et d'un cache-nez. Il avançait vers l'arche d'aval, la mesurait, dessinait des esquisses sur ses carnets, reculait, partait dans l'autre sens. Les pêcheurs ne lui prêtaient pas attention, ils ne regardaient pas non plus beaucoup leurs travaux. Il était pris par son idée, il en était tracassé, travaillé, ses conceptions bougeaient tout le temps. Il pestait, je me permis d'aller le retrouver dans les rochers, je le saluais et discrètement le regardais faire. Il multipliait les ébauches qu'il annulait, chiffonnait, je m'enfuis. Un soir de mauvais temps, le vent tourmentait les vagues, secouait les bateaux, Monet était aimanté. Il peignit assez rapidement, en longues couches fluides, une mer soufrée, vert amande, tout en panaché d'écume livide, nuancée de jaune rose, avec la falaise sombre, schématique, balafré de coups de brosse noirs sur un fond uniformément crépusculaire. Le trou de la porte d'aval était submergé par l'assaut du flot en barbouillie blanchie que moi-même alors je trouvais presque grossier. Des silhouettes apparaissaient sur le rivage, noires, imprécises. Les robes étaient fouettées par les tourbillons. Des hommes semblaient abriter leurs yeux de leurs mains en auvent pour scruter l'horizon bouleversé ou lutter la tache ténébreuse, minuscule, d'un bateau orphelin.
Merci Patrick Grinville, extrait de Falaise des Fous, donc Monet qui peint. On entend dans vos livres, évidemment, la manne porte, le joli mot de valeuse, Laval, l'amont, Le Havre, Honfleur, Villerville. Est-ce qu'il s'agit pour vous, quand vous écrivez et quand vous les mentionnez, ces mots, on se souvient de Proust aussi, Bolbec sûr, qui oui, devient oui, oui. Balbec, de rêver. Est-ce qu'un paysage, c'est pas aussi, pour un écrivain, un ensemble de noms qui eux-mêmes mène vers autre chose, la mer amande, nuancée de jaune rose, on ne sait plus si on est au Japon, si on est en Normandie.
Chez Monet, oui. Voilà. En plus, Monet aimait les Japonais, et il y a une valeur, le Havre, c'est le port, mais il y a une ouverture, puis c'était l'époque des...
C'est le refuge, le Havre,
oui,
aussi.
Et oui, et puis c'est l'époque des grands bateaux qui quittaient le Havre, des voiliers, tout ça. Honfleur, pareil, Harfleur, il y a ce poème merveilleux d'Hugo, il va sur la tombe de sa fille, il parle des voiles vers Harfleur, etc. Harfleur, donc il y a tout un imaginaire du nom qui nous peuple absolument l'esprit, et ça c'est très important, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom vers Fécamp? Moi c'est une ville qui m'a impressionné, parce que c'est la grande falaise qui va du Havre à Fécamp, c'est une falaise envoûtante, et Fécamp, il y a quelque chose aussi de magnifique, de sombre un peu, c'est des petites maisons de siècle.
Il y a la fée,
le camp des fées,
voilà, le camp
c'est rabalien ça.
Exactement, et alors la falaise, encore un mot magnifique, la falaise, est-ce que dans votre livre... Bon, on pourrait en citer, hein, quand vous parlez d'Hugo. Hugo sombre dans un songe, il adore le mot songe, il est un peu fou, tout tangue, il adore le mot tout. Hugo, c'est tout, c'est fou, c'est la falaise des fous. Monet, Hugo, Courbet, on entend le craquement des failles, la falaise se met à déconner. Un bout de corniche s'éboule, on rattrape de justesse le prophète. Vous parlez de Monet comme le fou de la falaise. La falaise, c'est le lieu qui peut être lu dans votre livre comme le... Un symbole au-delà de la dimension emblématique pour les impressionnistes, c'est le paysage métaphorique de la création artistique, de l'écrivain aussi.
Moi, c'était le bocage, mon paysage. Mmh. C'était les petites haies normandes avec les pommiers. Ouais. Et la falaise ouverte sur la mer, c'était l'aventure. C'est l'ouverture vers quelque chose d'infini, vers un bouillonnement, vers les écumes et les embruns. Et donc, ça a été très fort. Parce que moi, je me souviens très bien de mon enfance, on allait... pêcher, chasser dans les champs, et on voyait la mer. Et c'était très étonnant. Parfois, on avait l'impression que les bateaux étaient dans le ciel. Il y avait un chavirement, c'est-à-dire que les lignes étaient bouleversées. Il y avait un monde là qui était le monde de l'imaginaire, de la vision.
Oui, mais c'est ce mot que vous choisissez, falaise, comme titre, il y a le mot.
Ah,
fou,
falaise, oui,
mais il y a
c'est
falaise.
La falaise des Trotta, vous savez, la falaise des Trotta, c'est quand même très impressionnant. Et moi, je l'ai vraiment exploré, je me suis baigné, je suis passé dessous, tout ça. Quand vous êtes sous l'Arche d'Aval, et que vous avez de l'eau partout, et que vous avez déjà un certain âge, et que la mer remonte, et que vous voyez cette espèce de vertèbre calcaire de l'Arche d'Aval, et vous êtes là, vous êtes bien, il y a les galets, la mer est turquoise, à la différence de la Manche. Il y a quelque chose de qui vous remplit d'une joie extraordinaire.
Christine, la falaise, c'est blanc, c'est clair, ça réfléchit la lumière, et il y a toute cette lumière de la peinture, comme ça, qui est dans le roman.
Et de la falaise, on passe dans votre livre, Patrick Grainville, à New York. Il y a le Nouveau Monde aussi. Il y a évidemment, alors c'est drôle parce que c'est juste en face.
Et oui, puis on part du Havre.
Exactement. Et le Havre qui a été très évidemment symbolique, c'est le lieu de connexion entre l'ancien monde européen et le Nouveau Monde, le France, le Normandie, etc. Il y a cette description du Nouveau Monde de New York. D'ailleurs, ça va faire plaisir à Christine Montalbetti. Vous parlez de la mairie de New York que vous comparez au casino de Trouville.
Oui. Je connais bien le casino de Trouville. Non, ce qui est étonnant, c'est que Monet aurait pu peindre à New York.
Vous le dites d'ailleurs.
Durand-Ruel le lui propose, il n'y va pas, il est assez casanier, comme j'ai été souvent, moi, quand j'étais jeune écrivain, puis je me suis mis à décoller, mais il a fallu du temps qu'on m'y oblige. Et c'est vrai que c'est un regret, Monet devant le pont de Brooklyn, et là il aurait fait des choses inouïes, comme il a fait les ponts de Londres. Hein. Les impressionnistes vont aller à New York, hein. Les tableaux vont à New York dès 1886, et donc ils sont tout de suite de l'autre côté.
Ce fut le New York Times Building avec sa loggia au sommet, ses arcs hauts et cintrés. La mairie de New York ressemblait un peu à un casino, celui de Trouville ou de Monte Carlo. Je montais dans un fiacre qui me mena aux portes du quartier Conora, appelé le ghetto. Alors il y a New York, hein, on le disait, il y a le Havre, il y a le Bocage, il y a tout ça dans votre livre, il y a Paris, la Commune. Il y a aussi l'histoire, Patrick Grainville, et je me suis demandé en vous lisant si finalement le paysage n'était pas toujours le traître devant l'histoire. L'espace, en effet, organise une sorte d'oubli. Je vous cite. « L'histoire est une bacchanale de soudards et de cocottes. Oui. Les lieux sont voués à l'amnésie. » Écrivez-vous encore au sujet du parc Monceau où des couples s'étreignent là où on fusilla les communards. Ouais. Alors au fond, voilà, c'est ça, on le disait tout à l'heure en introduction. Comment aller à la conquête de ce paysage? On a l'impression que, de toute façon, le paysage se refusa. Il se vend à l'histoire, finalement. Il s'adapte à l'histoire en permanente. L'histoire avec un grand H. Il trahit le paysage.
C'est la falaise d'Étretat est indemne, elle est intacte d'un bout à l'autre du roman. C'est-à-dire qu'au moment où il y a les crimes, au moment où il y a les horreurs de la guerre 14, où il y a les blessés dans Étretat, Étretat est une ville, l'hôpital, la falaise est intacte. C'est une vieille idée romantique, que la nature est indifférente, etc. Mais c'est très frappant, dans des moments aussi terribles que la guerre 14, cette beauté, la clarté, la blancheur de craie, de calcaire, de silex de la falaise est impressionnante. En effet, alors c'est plein de fantômes. Hein, Hugo est venu peindre la falaise. Enfin, il y a eu tous ces passés-là. Et puis, la falaise reste. Demain, je vais être trop tard ou après-demain, je vais arriver au petit matin, je vais garer ma voiture et la falaise va être là, magnifique et absolument indifférente à nos horreurs. Hein.
Voilà. C'est drôle, Christine Montalbetti, vous avez ajouté d'ailleurs l'idée de blancheur quand Patrick Grainville parlait de la falaise des Totas, de l'aiguille. C'est drôle parce qu'il y a cette blancheur-là aussi dans votre livre, mais qui caractérise une femme. C'est la fameuse Alphonsine Duplessis, la dame aux camélias, dont l'histoire est célébrée dans un musée de cette petite ville gacée, donc dans l'Orne, où vit votre personnage. Finalement, c'est drôle parce qu'il y a la blancheur de cette falaise solide, puis il y a la blancheur de la phtisique, la normande phtisique.
Oui, ce qui m'a frappé dans la présence dans cette petite ville de l'Orne de la dame aux camélias, avant qu'elle ne devienne la dame aux camélias, c'est la manière dont, et en tout cas c'est comme ça aussi que le musée la présente dans les documentaires, dont cette petite fille normande, avant de partir à Paris, qui vendait des parapluies agacés, est devenue le personnage de Dumas, mais aussi a été incarnée par les documentaires du musée y insistent, par les plus grandes cantatrices, les plus grandes actrices. Et il m'a semblé qu'on pouvait voir aussi une analogie entre cette dame aux camélias et ce papy braqueur, c'est-à-dire tous les deux qui, comme ça, quittent le paysage normand pour faire un geste qui fait qu'ils vont devenir des personnages.
Un geste de folie pour, en tout cas, votre papy braqueur. Pas la folie créatrice, quoique, au fond, il crée un geste.
Un geste qui est surprenant, qui est troublant, mais qui est aussi une manière d'entrer dans le roman policier, d'entrer dans le film policier, de se construire en personnage.
Vous connaissiez ce musée de la Dame aux Camélias à Gassé, dans l'Orne?
Je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert. Non, je ne connaissais pas. Je connais bien le Casino de Trouville. J'ai joué au Casino de Trouville quand j'avais 19-20 ans. J'en parlais avec Christine tout à l'heure parce que son papy, il est joueur d'abord. Ouais, ouais. J'ai joué, je me suis arrêté de jouer parce que j'ai vu la pente qu'allait prendre le papy.
Vous n'allez pas vous retrouver dans le roman de Christine, en fait.
Là, c'est... Oui, parce que oui. Oh là là, on peut beaucoup d'hommes de mon âge pourraient s'y retrouver. Oui.
On va en parler, Christine Montalbetti, de ce Trouville Casino. D'abord, on écoute, c'est la tradition ici, votre choix musical. Bastien l'Allemand, Les Ombres, un petit mot quand même sur cette...
En fait, j'ai rencontré Bastien l'Allemand au moment de la sortie du roman précédent, parce qu'il organise des siestes acoustiques. Donc il invite quelques musiciens...
Des siestes acoustiques.
Voilà. Il invite quelques musiciens, souvent Albin de la Simone, la violoncelliste Maëva Lebert. La fois où j'y étais, il y avait même Vanessa Paradis qui a chanté en acoustique. C'était très, très émouvant de l'entendre. Et qui conjugue donc la musique et puis la lecture, soit par les auteurs, soit moins souvent par un comédien, de texte. Et ça s'appelle sieste parce qu'on peut dormir, on peut s'allonger, on peut rêver. Ça m'a beaucoup touchée, cette expérience-là de lecture en musique. C'est-à-dire, il m'a demandé s'il pouvait improviser en même temps que je lisais. Ça peut aussi être simplement une alternance.
Et là, Les Ombres, alors, c'est qu'il improvise sur...
Alors, j'ai choisi ce morceau peut-être parce qu'il était un peu moins connu qu'Un million d'années, qui est le titre phare de cet album. Donc, je voulais faire entendre un titre moins connu, mais aussi parce que je trouve ça très pictural, cette histoire d'ombre portée, comme les ombres chinoises, que les ombres dessinent comme petite histoire, comme ça, au sol.
On écoute Bastien l'Allemand, Les Ombres.
On voit sur le sol les ombres portées d'une femme et d'un homme enlacés, leurs silhouettes fines s'embrassaient, sont mêlées. Sur l'asphalte grise, le mouvement léger de ces corps qui s'épuisent à danser, leurs bras dans les airs, balancés, s'enrouler. Le soleil cogne, le soleil. On voit dans le ciel leurs cheveux.
Bastien l'Allemand, Les Ombres, c'est le choix de Christine Montalbetti qui est avec nous et avec Patrick Grainville. Christine Montalbetti publie Trouville Casino aux éditions POL. Vous nous avez parlé de ce choix musical. Un petit mot quand même sur ce livre. Vous êtes née au Havre, Christine Montalbetti, le Havre dont il est question dans Falaise des Fous de Patrick Grainville. Mais du Havre, vous vous désintéressez pour ce nouveau roman qui se passe de l'autre côté de l'eau, c'est-à-dire à Trouville, et qui enquête sur un fait divers qui s'est produit le 25 août 2011, avec pour protagoniste un homme de 75 ans qui, assez inexplicablement, vint un jour braquer le casino de Trouville avant de tirer sur un policier et battre la campagne dans une cavale automobile. Roman et fait divers, évidemment, on pense toujours à Truman Capote, de sang-froid, à Carrère avec l'adversaire. Mais ici, vous évitez finalement tout le côté monstrueux, cliché du roman policier pour basculer, pirouetter du côté de la chronique et du portrait. J'ai un petit peu météorologique. d'un personnage en 131 séquences, vous les nommez ainsi, où vous tracez votre malfaiteur, vous promenez aussi dans vos propres souvenirs de Trouville, vous revenez sur les lieux du délit, vous vous baignez dans la piscine du casino, vous allez voir les rues où vivait le vieil homme, vous allez dans cette petite bourgade Gassé dont on a parlé, où il y a ce musée consacré à Madame Duplessis, alias la dame aux camélias, et vous vous adressez à votre personnage, au tu, deuxième personne du singulier, de façon très intimiste, alors même qu'il s'agit d'un braquage, comme si finalement c'était pas si important ça, et comme si tout se jouait ailleurs, dans le paysage peut-être.
Peut-être, en tout cas ce qui s'est construit, c'est dans le travail d'écriture, un mouvement comme ça, depuis la surprise devant ce geste, devant l'étrangeté de ce geste, vers un sentiment de familiarité croissante avec ce personnage. Et ce qui fait que, à partir d'un certain moment dans l'écriture, je me suis mise à le tutoyer. Et le roman reproduit ce mouvement dans la mesure où les toutes premières séquences sont à la troisième personne. C'est celui que les flèches d'information appelleront le malfaiteur. Et puis, assez vite, je le tutoie dans un moment où je l'imagine un peu perdu dans les rues. Du coup, c'est cette proximité-là, finalement, que j'interroge, cette proximité qu'on peut finalement peut-être tous ressentir avec ce personnage, avec à travers son rapport au paysage, effectivement, à travers peut-être ce que cette mélancolie de ces paysages crée chez lui, une mélancolie.
Dans un roman précédent qui détaillait le dernier vol de la navette américaine Atlantis, la vie est faite de ces toutes petites choses. Vous disiez, Christine Montalbetti, le plus souvent, ce sont les détails qui diffèrent, mais ils ont leur importance. Est-ce que c'est la démonstration que vous vouliez faire dans ce nouveau livre ? Ça se joue ailleurs que dans les grandes lignes, la vie ?
Je crois que ça se joue partout aussi, bien sûr, ça peut se jouer dans les grandes lignes, mais même à travers les grandes lignes, notre rapport au monde passe d'abord par, effectivement, ces toutes petites choses, par la matérialité du monde, par le rapport, l'interaction de nos corps avec cette matérialité.
Et le paysage, par exemple, l'atmosphère.
Absolument, le paysage, l'humidité du paysage, ou au contraire sa sécheresse, la sensation de l'air.
Patrick Grinville.
Oui, c'est un livre étrange, parce qu'il y a le casse, il y a la poursuite, et en fait, on pourrait résumer ça en quelques lignes. Hein. Il est vite rattrapé, et puis il est tué. Et puis, Christine Montalbetti va dériver, Alors, elle fait l'éloge de la digression à un moment donné, mais ce ne sont pas vraiment des digressions, c'est une nébuleuse, comme ça, d'écho, de résonance en elle. Et c'est ce qui est très réussi dans le livre, c'est ça. C'est la présence de l'imaginaire, de la mémoire. À un moment donné, par exemple, elle a l'idée, le fantasme d'aller chez la coiffeuse du village, en imaginant que la femme du papy est allé. Alors, il y a des scènes comme ça qui sont très, très étonnantes, d'identification, de fusion. C'est ça qui est très réussi dans le livre.
Vous essayez d'être près du réel. Vous nagez aussi, par exemple, dans la piscine du casino. Vous rendez sur les lieux du crime. Enfin, en tout cas, la narratrice. Je ne sais pas si c'est vous, mais la narratrice,
oui.
C'est vous.
C'est
mais vous remettez en cause sans arrêt la véracité de ce qui est écrit. Par exemple, vous dites, mais tout ça, bien sûr, c'est moi qui me le raconte. En quoi il est nécessaire de faire passer au lecteur cette information sur le doute que vous semblez avoir vous-même quant aux choses que vous racontez ?
Je crois que c'est à la fois une honnêteté, parce que je fais vraiment le départ dans le récit entre ce qui est de l'ordre du factuel, donc la chronologie de cette journée, c'est son minutage, comme ça que je fournis séquence par séquence et qui s'appuie sur les articles que j'ai pu lire autour de ce braquage, et puis ces évocations qui sont plus de l'ordre de la rêverie, donc je trouve important de signifier quand on est vraiment dans le factuel et quand on est dans l'espace de ma propre imagination. Et puis je crois que c'est aussi une prudence, c'est une honnêteté, mais aussi une prudence vis-à-vis du réel. Voilà, une manière de considérer les choses avec une certaine douceur, au fond, c'est une histoire, c'est une vie réelle, et donc je l'approche comme ça très précautionneusement.
Enfin, c'est un fait divers au départ, hein, quand même.
Oui,
enfin,
c'est un fait divers.
Réelle, c'est-à-dire... mais il y a quand même eu un petit braqueur.
Voilà, ah. L'histoire appartient à tout le monde, au sens où ce fait divers est connu, mais c'est ces espaces plus intérieurs, ces pensées, ces sensations que je...
Ce qui est étonnant, c'est que vous n'analysez pas, au fond, vous ne tombez pas dans la tentation qui serait de faire une sorte d'analyse du personnage, essayer de voir d'où ça vient, ça. Alors... le lecteur peut s'attendre à ça, parce que dans le moment du fait divers, on a parlé de folie, il a eu une maladie mentale, etc. Et c'est pas tellement ça, vous en faites quelqu'un d'universel, une figure de l'ennui universel, une figure de quelqu'un qui, chez lui, enfin il y a des passages presque angoissants, hein, la pluie tombe, il est chez lui, il y a ce monde est écrasant, il est morne, et en fait... Elle dit cette phrase
amusante. Il y a du vécu, Patrick Grainvier, là, vous avez l'air soudain très... Moi, je ne l'ai pas vu universel, il m'a intéressé.
Oui, mais bien sûr, parce qu'elle dit, nous sommes tous des papilles...
De la côte normande.
Oui, c'est un peu... Oui, c'est vrai, c'est le mantra.
Je ne pense pas qu'il y ait d'écrivain sans qu'il y ait une part d'ennui et de mélancolie. Ça, je ne pense pas. Je pense que tout écrivain a connu des moments de solitude et d'ennui. Et ensuite, il s'est enfoncé dedans comme Beckett, il en a fait son écriture, ou alors il les a
transcendés,
transformés. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui a manqué, quelque chose qui a pesé chez un écrivain. Alors elle, ce qui est marrant, c'est qu'elle évite d'entrer dans les motivations du papy. Il suffit de montrer comment il vit avec madame et comment ça se passe dans son décor pour comprendre qu'il a envie de foutre tout par terre et puis de traverser tout ça et de...
Oui, mais alors, d'ailleurs, on va interroger l'auteur. J'ai vu j'ai l'impression qu'il y a une tentative d'explication. Et je voudrais qu'on vous entende lire, justement, qu'il y a quelque chose qui explique ce geste fou. C'est pas loin de ce que vous disiez, Patrick Grainvier, mais voilà, j'ai choisi deux passages. D'abord, la campagne normande, et puis ensuite, ces volatiles, là, qu'on voit souvent aussi, du côté de Trouville et du Havre.
Mais je dirais peut-être pas explication. C'est en préservant un mystère, justement, en préservant cette... Et en allant chercher, effectivement, du côté de cette expérience que nous avons tous, de la pluie, à des titres divers, de l'ennui, quand même. Christophe Onodibio, vous vous ennuyez parfois, non?
Ah, je m'ennuie, j'aime l'ennui. J'aime m'ennuyer.
Oui, voilà. Ça, c'est important.
Merci, Patrick Grainvier.
C'est important.
La campagne docile continue de s'encadrer dans les vitres de ta Seat et il émane de son allure soumise et ordonnée un calme étrange. Parfois, des ronces s'enchevêtrent sur le bas-côté, on ne sait quoi de sauvage et de mêlé. Mais ce sont surtout des prés et des champs et des clôtures simples pour les départager, pour dire ce qui appartient à qui. Partout, la nature entretenue, le soin apporté à la plier à des volontés paysagères, et elle, conciliante, gentillette, a affiché une rusticité presque naïve, a dressé ses pommiers basiques, à accueillir mares et abreuvoirs, à supporter le poids des meules qui sèchent, à s'aplatir sous les ciels.
Donc là, les meules, c'était en hommage à Patrick Grainvier.
Les mares de mon enfance.
Et les pommiers.
Les mares et les pommiers, mais ça m'imprègne complètement, vous allez me faire pleurer.
Les meules de Monet.
Et deuxième, voilà, deuxième passage plus cauchemardesque.
Ah oui, c'est Hitchcock là. Vous allez voir.
C'est le passage sur les mouettes autour du casino qui commence par « Parce que les mouettes au-dessus du casino, tu veux qu'on en parle ?» Elles, les mouettes, chaque fois que tu venais, a tracé des figures incompréhensibles, cercles, sinusoïdes, diagonales, boucles, dans lesquelles il aurait fallu lire quoi, tournant là comme des oiseaux de mauvais présage. Si excitées, si nerveuses, si emportées dans le ciel blanc, à circuler comme ça, à ricaner comme des démons, à dessiner leurs figures entêtantes et magiques, que c'en était à se demander si elles ne finissaient pas, toujours occupées à leur danse de sorcières, par modifier le mécanisme des bandits manchots ou celui de la roulette avec leur magnétisme, brassant l'air comme si c'était les rouleaux des machines à sous ou les cases du cylindre qu'elles engrenaient dans leurs mouvements, et finalement entraînant ta perte, l'idée pouvait bien te traverser que c'était ce qu'elles faisaient, toi qui sans leur action maléfique aurais peut-être remporté la mise. Mais tu jouais contre les mouettes, contre le sort, contre la vie de ta compagne, contre l'idée de ton voisin, tu jouais et le plus souvent tu perdais.
Trouville Casino de Christine Montalbetti, c'est chez POL. Alors, c'est vrai que quand on vous entend parler du ciel bas et lourd, de ces mouettes qui tournoient, des pommiers aussi, de la pluie qui tombe, est-ce que finalement vous cherchez à nous dire combien les paysages dans lesquels nous vivons nous façonnent et presque nous font agir, quoi. Comme s'il y avait un déterminisme de ces paysages qui avait pu expliquer le geste fou de ce papy braqueur.
Mais c'est vrai que j'aime créer une continuité entre les paysages et les personnages. Dans Plus rien que les vagues et le vent, la violence de l'océan devenait contagieuse et se muait en une certaine violence des habitués du bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les paysages nous constituent, même d'un point de vue très physiologique, tout simplement parce qu'on les respire, on transforme leur oxygène, on les avale, on les mange aussi quand on mange leur production. Et du coup, les paysages deviennent très sérieusement des parties chimiques de nos corps.
Vous lui dites-tu à ce personnage comme si vous vouliez prendre soin de lui, comme s'il fallait veiller sur lui, sur cet ennui justement dont parlait Patrick Grainville, comme s'il fallait être une présence finalement à ses côtés?
Oui, c'est très étrange ça, ce qui se passe dans l'écriture, qui fait que il y a un mouvement d'affection qui se développe vis-à-vis du personnage.
Vous auriez pu tutoyer Monet, Patrick Grainville? Tu es là,
non,
devant ta toile.
Non. Hugo tutoyait l'océan, l'océan lui répondait, ils étaient à tu et à toi, mais moi je pouvais pas tutoyer Monet, non. Mais elle, en effet, elle le tutoie comme un double, c'est la progression du livre, hein. Elle le prend en affection et il y a cette fusion, ça c'est frappant. Il y a quelque chose de durasien aussi, les personnages de Duras à Trouville, souvent... Voilà. Moi, elle disait, Duras, j'ai peur des trous dans la falaise. Elle avait des peurs comme ça. Et alors, dans Moderato Cantabile, elle va comme ça au bord dans le port et tout. Il y a le poids, il y a une fatalité du paysage un peu qui vous prend et qui vous emporte et qui vous...
C'est beau ce qu'elle dit, oui, fatalité du paysage. Oui.
Ce qui est émouvant aussi dans le rapport du narrateur du roman de Patrick Grainville à Monet, c'est qu'il raconte sa propre vie et comment cette vie est prise dans l'histoire de la peinture et l'histoire du siècle. Et il raconte donc les différentes rencontres qu'il fait avec Monet tout au long de sa vie. Mais Monet ne le reconnaît jamais. Et c'est ça, c'est celui qui n'est jamais reconnu par Monet et qui va comme ça prendre son histoire.
Ça s'est imposé comme ça, mais je n'ai pas d'explication. Ça, c'est vrai, on me l'a dit souvent. Monet ne le reconnaîtra jamais, même en 1917, sur la plage, Monet est vieux, et il le voit, ils se croisent, et Monet ne le reconnaît pas, il ne le reconnaîtra jamais.
C'est drôle que vous parliez de Monet, Christine Montalbetti, à ce moment-là, parce que c'est vrai, tout à l'heure, Patrick Grainville citait l'une des phrases fortes de ce Trouville Casino, « Car nous sommes tous, au moins le temps pour moi d'écrire ton histoire, au moins le temps pour vous de la lire, la lecture n'est-elle pas faite pour ça ?» Des papis de la côte normande. Au fond, j'ai l'impression qu'il y a ce papy comme une personnification du paysage. Et puis Monet, chez vous, Patrick Grainville, figure tutélaire de ce roman, aussi personnification finalement de ce paysage d'Étretat, de falaise. Alors est-ce que pour terminer cette émission, vous auriez jusqu'à dire Monet et ce papy braqueur, même combat, que les personnages sont des paysages, ou plutôt les paysages des personnages?
Écoutez, Étretat, oui, mais alors à Giverny, vraiment, on a l'incarnation même. Hein. Un Monet qui va créer Giverny, qui va détourner l'Epte, et qui va faire son nid, qui va en faire son paysage, qui va en faire son chef-d'œuvre, qui ne peut vivre que là, y revenir. C'est même étouffant, Giverny. Hein, c'est étouffant parce que c'est vraiment la sécrétion de Monet, et là, c'est très frappant.
En tout cas, le roman se construit sur cette interaction entre le personnage et le paysage, et dans une certaine mesure, il la célèbre, en tout cas, il la prend dans l'écriture.
Eh bien, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Christine Montalbetti, Trouville Casino, c'est chez POL, et Patrick Grainville, Falaise des fous, c'est au seuil. Merci à tous les deux.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Sophie Marty, Anne-Laure Chanel à la réalisation. Jean-Frédéric, c'est la technique. Vous pouvez nous suivre et commander sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr cette émission sur le paysage, la littérature, sur Le Havre, la Normandie, Trouville, toute cette côte magnifique avec Patrick Grainville et Christine Montalbetti.